des philosophes publics.
Alors bleu, c'est quoi ? Religion.
Là, c'est on a retourné le problème
faire
en fait.
À l'extérieur de la classe, ce qu'on fait à l'intérieur de la classe, c'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres.
Bon, alors non, on a le droit, de retourner.
C'est sûr.
Rouge, société.
Poser des questions, mais c'est peut-être de créer du désir.
Parce que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose mieux.
C'est compliqué aujourd'hui de trouver la perspective commune.
Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis, enseignants de philosophie, attentifs à la vie commune.
Il est né d'un sentiment, sans aucun doute partagé, d'être confronté à des événements révélant une crise grave de la société.
Crise des représentations,
des institutions
et des rapports au monde. Ce collectif a décidé d'aller partout où le dialogue est possible. D'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer.
De discuter et concevoir, de porter voix et témoigner. De tout ce qui se dit et fait
pour une société plus joyeuse,
plus éclairée,
plus solidaire.
Philosophe public.
Bonjour à toutes et à tous. Comme nous vous l'avions indiqué lors de l'émission précédente, mais il n'est pas obligatoire de l'avoir écouté, on espère en tout cas, pour écouter celle d'aujourd'hui. Mais nous allons donc terminer l'explication, les éclairages dont on peut disposer à partir du texte de Kant, donc au début de « Qu'est-ce que les Lumières ?». La dernière fois, on avait insisté sur ce qu'on peut appeler le refus de savoir, la complaisance ou le penchant que nous avons tous à l'intérieur de nous, finalement à nous remettre à d'autres volontés que la nôtre pour mener notre vie aussi bien finalement corporelle, sensible, que notre vie intellectuelle et bien sûr que notre vie politique et morale. Mais chez Kant, tous ces sens sont emboîtés les uns dans les autres. Aujourd'hui, comme on l'avait dit la dernière fois, on aimerait mettre l'accent, puisque c'est le texte, l'ordre du texte qui nous y invite. On peut trouver d'ailleurs ce texte sur Internet, il suffit de taper « Qu'est-ce que les Lumières Kant ?» et vous aurez la traduction de Barny. Donc dans cette émission, on voudrait s'interroger sur les mécanismes aussi de l'impossibilité de penser, mécanismes historiques, politiques, donc mécanismes sur lesquels on peut agir. Donc on va reprendre le texte. Morgane, si tu veux bien juste nous le lire. Donc aujourd'hui, nous sommes les mêmes que la dernière fois. Ronald, Hélène, Marc, Morgane. Et Morgane, donc à la fin du deuxième paragraphe.
Après les avoir d'abord abêtis en les traitant comme des animaux domestiques, et avoir pris toutes leurs précautions pour que ces paisibles créatures ne puissent tenter un seul pas hors de la charrette où ils les tiennent enfermés, il leur montre ensuite le danger qui les menace s'ils essaient de marcher seuls. Or ce danger n'est pas sans doute aussi grand qu'ils veulent bien le dire, car au prix de quelques chutes, on finirait bien par apprendre à marcher. Mais un exemple de ce genre rend timide et dégoûte ordinairement de toute tentative ultérieure.
Merci Morgane. On remarque ici que ce qui est reproché au début du texte est en fait construit. On peut construire la bêtise. Là encore, on pense souvent que la bêtise, d'ailleurs qui vient du mot bête et qui renvoie à l'animalité ou à la bestialité, serait quelque chose de naturel. Or ici, Kant va montrer que ça peut relever, alors pas forcément d'actes volontaires, mais quand même d'une culture qui se construit sur un préjugé. Et le préjugé consiste à nous penser selon une analogie avec les animaux où il y aurait un berger, peut-être même un gentil berger, un bon berger, qui guiderait ses bêtes, puisque c'est le berger qui sait où elles peuvent se nourrir, se protéger et ne pas mourir. Donc ce paradigme qui est quand même qu'on trouve dans de nombreux textes et dans de nombreuses pensées comme ça un peu immédiates, est à rejeter totalement pour Kant. Si elle a un sens, c'est évidemment pour l'enfant, et encore, puisque l'enfant, il faut justement lui apprendre à se passer du berger, mais bon, il y a bien un moment la question de la responsabilité, c'est pas l'enfant qui l'a, mais c'est l'éducateur ou le parent. Mais à partir du moment où nous sommes majeurs, nous ne pouvons plus être mis dans une situation d'abêtissement ou de stupidité. comment on procède pour Kant, hein, pour ramener l'homme à sa dimension animale, en lui faisant croire que la liberté est horriblement dangereuse. Donc ici, on a deux sens du politique qui s'affrontent dans ce texte. Hein, ou bien la politique, c'est l'entrée dans la sécurité, ou bien la politique, c'est l'entrée dans la liberté. Alors évidemment, si on fait un raccourci, ça pourrait vouloir dire qu'entrer dans la liberté, c'est ne pas être en sécurité, ce qui n'est absolument pas le propos de Kant, puisqu'il va justement montrer que c'est l'entrée dans la liberté qui va renforcer les ordres politiques. Dans une république, nous avons le droit, pour Kant, voire même le devoir, de critiquer, hein, au sens kantien, c'est-à-dire non pas faire table rase, mais au sens d'apporter toujours une ouverture par rapport à ce qui est donné, et de préparer par là, hein, peut-être... des changements, des réformes. Or, ce que dit Kant, s'il y a la possibilité de cet espace public, c'est-à-dire de la critique, eh bien, les républiques seront bien plus durables que si elles sont construites, hein, comme dans le cas des monarchies, sur un ordre qui se donne comme ordre absolu. Et dans ce cas-là, dit Kant, le despotisme favorise les sociétés secrètes. Si le pouvoir n'appartient qu'à un seul ou qu'à un groupe d'hommes, hein, là, eh bien, dans ce cas-là, nous allons tous, pour aussi avoir le droit à cette parole, fabriquer des pensées contre, mais de façon secrète. Et pour Kant, la République n'a lieu que si elle est transparente, c'est-à-dire espace public, au sens ici de rendre public sa pensée critique, la confronter à d'autres pensées pour préparer un monde, hein, qui fait place à la diversité, à la pensée diverse. Marc.
Juste pour revenir sur le passage que Morgane a lu tout à l'heure, moi, ce que je trouve aussi intéressant et assez paradoxal dans ce passage, c'est qu'on se rend compte que ceux qui vont s'ériger en tuteurs ne sont pas forcément eux-mêmes émancipés intellectuellement. Quand on sait que Kant vise le cléricalisme aussi, justement, ou toute forme de dogmatisme politique, religieux, etc., ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas parce qu'on va soi-même être le tuteur d'une foule abétique qu'on va être soi-même émancipé intellectuellement, avoir accédé aux Lumières. Bien au contraire, d'une certaine manière. Donc ici, il y a un paradoxe qui fait que l'opposition qu'il fait est une opposition plus complexe que ce qu'on pourrait le croire. Parce que si on fait une lecture superficielle, on se dit il y a d'un côté la masse des ignorants, des paresseux, des lâches qui vont se laisser manipuler. Et de l'autre côté, il y a donc des gens qui, eux, auraient échappé à ça, en l'occurrence, et qui pourraient donc s'ériger en tuteur. Mais en fait, pas du tout. Puisque le cléricaliste croit sans doute aux erreurs qu'il impose aux autres. Et ça, c'est assez intéressant. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure.
Oui, et surtout, il y a trois termes chez Kant. Nous avons le mineur, le tuteur et le majeur.
Exactement.
Et le tuteur n'est en aucun cas le majeur.
Voilà, hein,
on pourrait même dire chez Kant, là, surtout plus tard quand il écrira la critique de la raison pratique, qui est une réflexion sur la morale, qu'au fond, le mineur, c'est celui qui cède à sa nature. Mais chez Kant, nous pouvons céder à notre nature. Bien sûr que par moment, nous aimons nous prélasser au soleil ou il dit, si nous aimons collectionner les timbres, et ben collectionnons les timbres. Enfin, donc, mais il ne faut pas qu'elle prenne toute la place. En revanche, le tuteur, c'est celui qui peut, à l'intérieur de lui, poser la question de la morale. Et la question morale, c'est toujours la question du rapport à autrui. Or, le rapport tuteur-mineur se fonde, enfin, sur une inégalité. Sur une inégalité que le tuteur argumente comme étant une donnée de la nature. Or, pour Kant, le tuteur doit aussi, bien, et il a accès, hein, à ce savoir qui, pour Kant, n'a rien à voir avec une intellectualité au sens théorique du terme, c'est un savoir moral. Le tuteur sait qu'au fond, s'il fait croire aux autres que c'est très dangereux la liberté, c'est parce que lui a des avantages directs, hein, à commander, à ce qu'on lui obéisse, voilà, des avantages en nature. Oui, Morgane.
Oui, je trouve que c'est important aussi d'un point de vue éducatif de se rappeler ça, parce que est-ce qu'on n'est pas tous, à certains moments, dans une position de tuteur, et de savoir ce qu'on fait de cette position-là, notamment quand on a des enfants, est-ce qu'il n'est pas nécessité de les rendre autonomes, voilà.
Mais justement, Morgane, moi, il me semble qu'il faut absolument sortir d'une comparaison tout le temps implicite, hein, avec le rapport parent-enfant, parce que le politique, le monde du politique, le monde de la République n'a rien à voir avec ce paradigme. Et quand on voit combien il est vivace, ou combien on a du mal à penser la politique autrement que comme des gens qui savent, voilà, qui savent diriger les consciences, etc., et qui doivent prendre soin du peuple qui se réuniront. Si on ne sort pas de ce paradigme, on ne peut pas penser la République au sens fort. Donc je crois qu'il faut accepter de dire que dans notre vie, nous avons deux moments différents, le moment de l'enfance, de l'éducabilité, mais ce moment-là, il s'arrête. Et alors l'arrêt, Kant le nomme bien, il dit l'arrêt est difficile, c'est un arrachement. Tout à coup, ce dans quoi j'ai mis effectivement ma confiance, hein, que ce soit le père ou un éducateur d'ailleurs, c'est pas forcément les parents au sens biologique du terme, c'est un moment, on a tous fait, je crois, hein, un moment cette expérience de la solitude, de se dire, eh bien je ne suis pas que ça. Et c'est ça être majeur. Et il faut faire l'expérience là. Ensuite, si ça pose la question de l'éducateur, oui, peut-être qu'avec Kant et dans d'autres textes, comme il va en parler, que l'éducateur... Mais encore qu'il est un tout petit peu tuteur du point de vue juridique, au sens où l'éducateur doit protéger juridiquement l'enfant. Mais bien sûr, en posant d'emblée qu'il va s'en aller et qu'il n'a rien de fondamental.
Oui, mais est-ce que la formation du futur citoyen ne passe pas aussi par cette nécessité d'autonomie ?
Mais oui, non, mais c'est oui. Mais par exemple, on peut, je sais pas, je prends l'exemple d'une école, une école qui ne donnerait jamais la méthodologie pour accéder à ce qu'on appelle la pensée, la vérité, mais qui assènerait que des connaissances ou que des choses extrêmement utiles, ne prépare pas à l'autonomie.
Tout à fait.
La préparation à l'autonomie, elle est paradoxale, puisque de toute façon, c'est une invitation à la liberté. D'ailleurs, Kant va le nommer comme ça, le grand paradoxe. Mais c'est notre difficulté d'humain, c'est que pour être libre, il faut être mis en liberté. Dans l'éducation, on le fait progressivement.
Oui, puisqu'il va distinguer justement ici le tuteur tel que le critique et le condamne Kant et l'éducateur ou le professeur, c'est que le professeur ne va pas traiter éternellement ceux dont il a la responsabilité comme des mineurs justement, et que son but ne va pas être de les maintenir en minorité, mais au contraire d'essayer de leur transmettre les outils d'émancipation intellectuelle. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pour leur transmettre, encore faut-il qu'il les ait lui-même. Parce que si le tuteur est lui-même aveuglé par son idéologie, sa croyance, etc., il est impossible qu'il le fasse. Donc Kant va... Je vais peut-être lire d'ailleurs la fin de l'extrait, hein, c'est ce qu'on avait prévu, la toute fin de l'extrait qu'on voulait expliquer. Si Kant considère qu'on pourra sortir de cette tutelle, c'est parce que parmi les tuteurs, certains, prenant plaisir à la pensée libre, auront peut-être envie de la transmettre.
Je ne crois pas, Marc. Alors, je ne crois pas. Quand il parle plutôt... Alors effectivement, il y a une forme d'élitisme chez Kant, mais ce sont... Ici, ce qu'on pourrait appeler les intellectuels, hein, comme Rousseau, comme mais pour Kant, ils ne sont pas des tuteurs au sens historique du terme. Ce sont des gens qui n'ont pas de pouvoir sur les autres. Ce sont des gens qui cherchent à réfléchir les conditions de possibilité de la liberté. Mais qui sont souvent au contraire des gens qui sont censurés, qui sont...
Oui, mais il dit quand même que même parmi les tuteurs, si vous voulez, je le lis le passage, peut-être c'est le mieux, comme ça on...
Ok, ouais.
Alors, donc c'est la toute fin du début de Qu'est-ce que Lumière ? C'est le cinquième paragraphe qu'on avait prévu d'expliquer donc, dans cette émission. Mais que le public s'éclaire lui-même, c'est ce qui est plutôt possible. Cela même est presque inévitable, pourvu qu'on lui laisse la liberté. Car alors, il se trouvera toujours quelques libres penseurs, même parmi les tuteurs officiels de la foule, qui, après avoir secoué eux-mêmes le joug de la minorité, répandront autour d'eux cet esprit qui fait estimer au poids de la raison la vocation de chaque homme à penser par lui-même et la valeur personnelle qu'il en retire.
Bon, tu as raison, hein, puisque là, il nomme bien que donc, dans ces libres penseurs, il y a donc des tuteurs officiels. Bon, moi, je crois, mais enfin, je crois, c'est aussi des explications que j'ai pu lire, que c'est aussi pour déjouer toujours cette censure. Et dire aussi, parce que le journal dans lequel Kant écrit est moqué. Hein, il faut vraiment... Nous, aujourd'hui, quand on emploie le terme de lumière, on a une sorte de respect, on se dit les lumières, de parfois même, sont... Enfin bref, ce qui est tout à fait normal, elles ont apporté bon, les droits de l'homme, etc. Mais à l'époque, les gens qui étaient dans les lumières, mais c'est comme on s'est moqué de Socrate, si vous voulez. Cette revue mensuelle berlinoise, elle n'avait aucune autorité. C'était pas le journal dont on lisait. Donc, si vous voulez, ici, je pense que... Et c'est tout à fait ce que pense Kant, mais sincèrement, effectivement, c'est qu'on a intérêt à travailler avec ce qui est là. C'est-à-dire aussi avec ces tuteurs qui sont persuadés d'avoir raison et de détenir la vérité absolue. Donc, il n'est pas... Il ne les destitue pas frontalement, sinon il n'aurait aucune chance de toute façon d'être publié. Et aussi, ça va dans le sens de Kant, de dire que finalement, nous avons tous accès, mineurs ou tuteurs, la possibilité d'un rapport moral égalisant, si vous voulez, à la liberté, à la citoyenneté et au savoir.
Et tu as insisté sur la dangerosité de la liberté, mais Kant aussi, on n'en a pas parlé, mais au début du texte, parle de l'intérêt qu'on a à penser dans le sens où ça, c'est pas du tout ennuyeux. Parce que, en fait, non seulement la liberté peut être dangereuse, mais en plus, on nous fait croire que penser est ennuyeux.
Oui.
Alors qu'il faut nous mettre, justement, il faut amener par le journal, par l'écrit, par les gens à penser pour qu'ils se rendent compte que c'est pas ennuyeux de penser.
Non, mais là, tu as tout à fait raison. Et là, il est très ironique. Oui, hein, quand il reprend, si vous voulez, la terminologie de ses tuteurs, hein, qui parle d'ennui, mais au fond, bien sûr que ce qu'il veut dire, c'est l'inverse, que cette liberté, elle vaut la peine d'être vécue et qu'elle donne le goût de vivre, de l'humain, mais qu'effectivement, elle contient des chutes. Et donc là, c'est une métaphore, mais je crois aussi que c'est une réalité. Oui.
Oui, je voulais ajouter aussi que ça rebondit sur une vision de la liberté qui ne peut pas exister dans l'exercice séparé. Ici, si le tuteur s'adresse à ceux qu'il veut priver de leur liberté de telle sorte qu'ils ne puissent pas l'exercer, il s'en prive lui-même. Il ne peut pas construire cette chose commune qui finalement a une signification politique. Donc je crois qu'on pourrait lire de manière un peu anachronique ce texte si on projetait sur ces lignes un schéma idéologique comme celui qui pourrait être compris à partir de ce qui se passera au 19e siècle par exemple, hein, ou au 20e siècle, comme une sorte de manipulation, de rapport de force, de rapport de classe. Ici, on est en train de construire un concept politique de liberté exercée à plusieurs et construite avec effectivement la participation de tous les citoyens qui finalement ne peuvent pas se priver de l'activité de l'autre. Donc c'est davantage un concept politique qu'un concept métaphysique.
Oui, ou sociologique. Mais et tout à fait, c'est pour ça qu'on pourrait conclure, en tout cas donner à cette phrase un rôle très fort. Quand Kant écrit que finalement la solution, alors évidemment c'est pas une solution simple, mais en tout cas la perspective, c'est que le public s'éclaire lui-même, hein, c'est ce qui est plutôt possible, alors là vraiment possible au sens de faisable historiquement, hein, puisque parfois on peut reprocher à Kant d'être seulement un idéaliste, hein, c'est ce que Hegel lui dira, oui tout est beau dans ta morale mais rien ne fonctionne. Je crois quand même que Kant toujours se pose la question des possibilités, que ça se réalise dans le monde. Donc cette possibilité, c'est que le public s'éclaire lui-même, c'est-à-dire que sans cesse, il mette dans l'espace commun des conditions de possibilité de s'interroger, d'avancer, de discuter. Et dans un autre texte, il dit que si nous ne discutons pas avec les autres, alors nous ne pensons plus du tout. Donc cette discussion est absolument vitale du point de vue de la raison et de l'humanité. Voilà, donc et à la fin aussi, quand il dit bien que là, il y a en chaque homme une vocation à penser par lui-même, vocation, c'est vraiment cette idée qu'il y a cette voix de la pensée qui ne demande, comme tu l'as dit Hélène, qu'à parler en fait, à parler avec soi, comme dirait Socrate, mais quand même à parler avec les autres.
En fait, il faut juste lui en donner la possibilité une fois. De manière à ce qu'il puisse entendre cette voix.
Une fois et durablement, c'est-à-dire quand même transformer, limiter à tout prix la monarchie absolue par un parlement, un système vraiment républicain.
Et juste une autre remarque sur la façon dont Kant éclaire l'exercice de la liberté. Il semble accepter l'idée que on puisse la concevoir comme dangereuse ou comportant des risques majeurs, bien sûr, dignes d'être encourus. Mais si on fait un petit contraste avec, par exemple, la manière dont Sartre va reprendre à son compte ce concept de liberté, on voit bien qu'on n'est pas dans la même époque. Hein. L'idée que, finalement, ce risque est digne d'être pris pour construire une société, pour construire un ensemble politique, chez Kant,
marque bien son époque. Alors qu'on revient chez Sartre, par exemple, dans cette liberté paradoxale qui expose toute l'humanité au risque que chaque homme lui fait courir par un exercice finalement un peu anarchique, on revient à une conception beaucoup plus individualiste. Donc là, on a affaire vraiment à un philosophe politique, bien plus que Sartre, par exemple, qui semblerait être celui qui porte très haut ce concept sur un plan politique. Finalement, ce texte l'éclaire singulièrement.
Je partage ce que tu dis. Est-ce que on a quelque chose à ajouter ?
Peut-être un tout dernier mot sur les philosophes publics, parce que c'est vrai que cette idée d'un public qui s'éclaire lui-même, je voulais juste rappeler que les philosophes publics n'ont pas vocation à aller rencontrer les gens partout dans la rue et ailleurs pour les éclairer, mais que notre collectif a vraiment été créé dans cette perspective de nous faire participer à un monde public qui s'éclaire sans cesse lui-même. Donc nous avons autant à apporter, nous, à l'espace public, que ce que nous avons à apprendre de tous les gens que nous rencontrons depuis bientôt 2 ans.
Voilà. Et c'est vrai que si on réfléchit sur le terme des lumières, la lumière, c'est pas ce qui est à voir, c'est ce qui fait qu'on peut voir. Et pour Kant, ce qui fait qu'on peut voir, cela ne peut être que collectif. Hein, et donc là, oui, il y a quelque chose d'anti-sartrien, en tout cas. Nous sommes collectivement propulsés vers la liberté et vers la pensée.
Merci.
Merci pour cette Merci. Émission sur Radio Grenouille.
Les philosophes publics.
Là, c'est on a retourné le problème en fait, en effet. Là,
c'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres.
Mais c'est quoi ce faut-il là ? Est-ce que
circuler une parole ?
C'est sûr.
Vous posez des questions, mais c'est peut-être de créer du désir.
Parce que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose mieux.
C'est compliqué aujourd'hui de trouver la perspective commune.
Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis, enseignants de philosophie, attentifs à la vie commune.
Ce collectif a décidé d'aller partout
où le dialogue est possible, d'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer,
de discuter et concevoir, de porter voix et témoigner de tout ce qui se dit et fait
pour une société plus joyeuse,
plus éclairée,
plus solidaire.
Philosophes Publics.
Vous pouvez nous retrouver sur Facebook
et sur le site de Radio Grenouille.